Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Cube Radio. Marie Montpetit. Elle connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Marie Montpetit.
Très heureuse de vous retrouver sur les ondes de Cube Radio. C'est déjà la fin de la session parlementaire à l'Assemblée nationale. Session qui va avoir duré seulement 8 jours. Hein. François Legault va avoir ouvert le Parlement pour le refermer aussitôt. Pour en parler avec nous, Rémi Nadeau, chef du bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Allô Rémi.
Allô Marie.
Alors, Rémi, cette courte session se termine quand même sur un sujet qui a pris pas mal de place au cours des dernières semaines, le fameux serment du roi.
Hey, écoute, ça a pris juste 12 minutes à régler ça. C'est presque une farce, là, quand on sait depuis combien de temps qu'on en parle. Évidemment, ça nous fait dire que 12 minutes, c'est sûr que les partis auraient pu trouver une façon de régler ça au cours des derniers jours pour permettre aux trois péquistes de siéger au moins une journée, ne serait-ce qu'aujourd'hui au Salon Bleu.
Ça aurait pu être fait hier, sans problème.
Hey, écoute, ben, je dis aussi court que ça, ça aurait pu se faire, c'est clair, là. Mais bon, écoute, je pense qu'ils avaient pas envie de voir la face triomphante de Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui, là, juste avant l'ajournement des travaux. Donc, écoute, l'essentiel, c'est que c'est fait. Donc, c'est sûr que c'est un pas important, c'est historique et ça fait en sorte que Paul Saint-Pierre Plamondon sera le premier au retour le 31 janvier à siéger sans avoir prêté serment. Maintenant, c'est un peu drôle de voir tout le monde essayer de prendre le crédit, c'est-à-dire les caquistes pour être le gouvernement qui a fait adopter le projet de loi, les péquistes pour avoir mis de la pression et accéléré le processus pour faire en sorte que ce soit adopté plus rapidement. Les solidaires, je les entendais, eux, cette semaine, dire « Ben oui, mais nous, hein, une chance qu'on était là pour jouer notre rôle puis questionner François Legault, là, une chance que nous, on a prêté serment en cachette pour pouvoir faire le job au Salon Bleu. »
Et ils avaient même déposé aussi un projet de loi la session dernière, dans la dernière législature, et la semaine passée aussi. Là, ils ont fait un petit bout.
Bon, oui, exactement. Mais tu sais, donc, alors, c'est juste un peu drôle de voir que tout le monde essaie de tirer
la couverte.
Tout le monde tire la couverte, là, c'est ça.
Puis les libéraux, là-dedans?
Les libéraux, disons qu'ils ont un peu moins de mérite dans l'ensemble du processus, si ce n'est que, d'avoir accepté de ne pas faire de chichi, hein, c'est-à-dire de ne pas demander de consultation, puis la pression serait revenue sur eux, en fait, s'ils avaient demandé quelque chose de plus lourd. Alors, bref, c'est fait, et je pense que médiatiquement, les péquistes en ont tiré profit, parce que de toute façon, s'ils étaient entrés au Salon Bleu, ils auraient posé peut-être une question ou peut-être deux au maximum sur les six journées où il y a eu vraiment des travaux parlementaires.
Ouais, mais je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon tenait à faire ses vœux de Noël. Ça avait l'air d'être ça, le gros enjeu de sa semaine en termes de priorité, de dire « ben là, je pourrais pas faire mes vœux dans le Salon Bleu ».
Ouais, c'est ça. Et puis, ça a fait en sorte aussi que les autres ont pu tirer la pipe des péquistes parce que les vœux ont été quand même très drôles. Aujourd'hui, François Legault avait des messages pour chacun des autres chefs. Puis là, quand c'était rendu au chef péquiste, il a dit « Je sais pas s'il est capable de m'entendre au travers de la porte », en sous-entendant qu'évidemment, il était pas dans le Salon Bleu. GND a fait un peu de même en disant « Les péquistes nous écoutent de la maison ». Ça a été un peu la blague. Mais au moins, comme je l'ai dit, c'était les péquistes, ils ont fait parler d'eux davantage que s'ils avaient été à l'intérieur.
Absolument. Puis, ce qu'on retient aussi, de cette session-ci, c'est que pour François Legault, il y a eu un petit avant-goût aussi de ce qu'il attend pour la suite, là, parce que ça a été, il y a eu 6 périodes de questions. On s'entend que ça a commencé quand même assez mollo pour lui, mais ça tire de façon assez forte, là, du côté des oppositions, là.
Oui, ben, ce qu'on voit, c'est la différence aussi avec un deuxième mandat. Là, tu sais, il ne suffit plus de dire c'est la faute de l'ancien gouvernement. L'ancien gouvernement a rien fait. Là, dans le cas de, par exemple, M. Dubé, moi, j'ai trouvé que Christian Dubé avait l'air déjà écœuré, fatigué. Il a eu André Fortin et Vincent Marissal dans la face là les 6 jours. De période de questions, et visiblement, il n'a pas tellement apprécié de se faire raconter les histoires d'horreur à chaque jour de gens qui n'ont pas de médecin, qui sont pas capables d'avoir de médecin, qui revirent de bord à l'urgence parce que c'est trop long, des listes de chirurgie qu'on n'arrive pas à rattraper, mais pas du tout. Alors, il avait vraiment l'air affecté
Il avait l'air à bout. Aujourd'hui, il avait l'air à bout. Moi, je regardais la période de questions, puis j'ai pas trop compris sa réponse. En tout cas, je trouvais que c'était pas super approprié quand il s'est fait questionner par André Fortin, justement, le porte-parole en santé du Parti libéral du Québec, qui lui soulignait le fait que des patients qui ont le cancer, qui attendent depuis 2 mois, il y a une hausse sur la liste d'attente, alors qu'il s'était engagé à régler ça. Puis Christian Dubé, qui s'est levé, je pense que c'était sur la deuxième complémentaire, en disant « Moi, je vais prendre un petit caramel ». En tout cas, il avait l'air d'être sur le bout de... Tu sais, qui avait besoin de respirer, là. Comme tu dis, je pense qu'il n'y avait pas de fun.
Non, on l'a entendu dire « on se calme », comme s'il se parlait à lui-même là, pour
éviter... Mais je pense que c'est à lui, c'est ça qu'il se disait qu'il fallait qu'il se prenne un petit caramel puis qu'il
c'est
se calme. C'est même bizarre.
Oui, puis hier, quand il répondait à Vincent Marissal, il avait l'air vraiment, là, comme je disais, affecté. On sent le poids sur ses épaules. Bref, pour lui, pour Simon-Jolin Barrette, parce que on voit des causes reportées aussi, des procès importants, parce qu'il n'y a pas de greffière, il n'y a pas de constables spéciaux dans les palais de justice. Pour Bernard Drinville, de voir que, comme le rapport de l'AVG l'a souligné, que le ministère n'a pas évalué correctement les retards subis par les élèves pendant la pandémie, et donc qu'on n'a pas de mesure claire non plus de rattrapage. On n'a toujours pas de données à jour sur le décrochage scolaire. Moi, je pense que ça va montrer l'ampleur de la situation. Il manque de profs. Alors moi, écoute, je pense que vraiment, on voit que les prochains mois, ce sera difficile. Et ça a été juste comme une période de réchauffement, ce qu'on a vu là, au cours des derniers jours. Mais les prochains mois risquent d'être longs pour les
techniciens. Ben, les services publics craquent de partout. Et comme tu dis, ils vont avoir leur propre bilan à défendre. Et là, il y a plein de nouveaux qui ont fait leur entrée à l'Assemblée nationale en cette nouvelle législature. Est-ce qu'il y en a que tu as identifié qui ont fait mieux que d'autres, qui sont prometteurs à suivre?
Oui, bien, je vais commencer par une fausse nouvelle, là, c'est-à-dire que Nathalie Roy, comme évidemment, était là dans le précédent mandat comme ministre caquiste, mais comme présidente de l'Assemblée nationale, on avait des doutes un peu, même là, lorsqu'on a su que ce serait elle qui serait présidente, il y avait des gens de l'opposition qui, sous le couvert de l'anonymat, nous disaient « Ouf, on l'aime pas tellement, on la trouvait partisane. » Bon, et puis je trouve qu'elle a vraiment très bien fait ça. Les travaux ont été bien menés. Elle a montré de l'aplomb beaucoup. Franchement, c'est comme si elle avait l'air plus à l'aise même dans son nouveau rôle que lorsqu'elle était ministre. Donc, je pense que pour l'instant, c'est sûr que 2 semaines, ça a été bref. Il n'y a pas encore eu trop de tensions, je dirais, au Salon Bleu. On verra. Mais ça semble une belle surprise pour ses débuts. Du côté de l'équipe libérale, Marie, je te dirais que les nouveaux ont pas mal tous bien fait. Je trouve que cette équipe-là a démontré de belles choses. Je pense, par exemple, à Brigitte Garceau, qui avait vraiment beaucoup, beaucoup d'aplomb lorsqu'elle a posé une question en matière de famille. Madoua, Nika Cadet aussi. Frédéric Beauchemin a l'air d'avoir beaucoup de contenu, je te dirais. Il manque peut-être un petit peu d'être plus dynamique lorsqu'il pose.
Ça va être à suivre, mon cher Rémi. Très intéressant. Alors, Rémi Dano, merci d'avoir été là, chef du bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.
Ça fait plaisir.
Bye.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Là-haut sur la colline. Embarquez avec Marie Montpetit dans les coulisses de la démocratie.
L'époque où les députés doivent obligatoirement prêter serment au roi pour pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. Et oui, c'est fait. Le projet de loi numéro 4 a été adopté à l'Assemblée, une loi qui va permettre de rendre facultatif ce serment. Maintenant, les députés, le seul serment obligatoire que les députés vont devoir passer, c'est celui envers le peuple du Québec. On en parle avec Jean Baillargeon, un expert conseil en communication stratégique. Bonjour, Monsieur Baillargeon.
Bonjour.
Bonjour. Ben, techniquement, là, dans la vie des Québécois, ça change pas grand-chose, le fait que les députés soient plus obligés de prêter serment à la monarchie, mais c'est quand même hautement symbolique, là.
Tout à fait. Ben, je dirais même plus, c'est historique. Comme vous le savez, il y a des moments dans la vie d'un peuple ou d'une nation qui changent le cours des choses. C'est des gestes symboliques comme ça. Pensons, par exemple, à l'adoption du drapeau du Québec, le fleur-de-lys qui a été amené par Maurice Duplessis. Alors là, c'est de même niveau, à mon avis, en termes identitaires, c'est-à-dire que le fait qu'on ne prête plus obligatoirement serment à la couronne britannique, c'est un moment historique.
C'est un moment historique. Ce que vous nous dites, dans le fond, c'est que c'est un geste d'affirmation nationale là, dans l'histoire du Québec. Hein.
Tout à fait. Donc, puis même, j'ai su que le lieutenant-gouverneur qui représente le roi l'a déjà approuvé, okay, l'a déjà sanctionné. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez me dire peut-être que rien ne change, mais avant, il y avait un geste d'hypocrisie un peu, c'est-à-dire que les gens se cachaient, même dans les dernières années, vous le savez, les gens se cachaient prêtaient serment. Avant, c'était toujours devant les caméras, mais là, on prêtait serment derrière les portes closes parce qu'on avait honte. Donc, il fallait revenir quelque chose de plus authentique. Le problème va venir du fait, est-ce que le gouvernement fédéral va contester ce projet de loi-là devant les tribunaux, devant la Cour suprême, comme étant inconstitutionnel? C'est là qu'on va voir si le gouvernement fédéral va aller de l'avant.
Ben ça va être à suivre. Mais comme vous dites, c'est vrai que dans les dernières années, ça devenait presque un petit peu ridicule de voir les députés qui soit chuchotaient le serment, soit se cachaient dans une autre pièce pour le faire à porte close. Moi, je peux vous dire que comme député, j'ai eu à faire ce serment-là deux fois et je m'en serais bien passé parce que c'est vrai que c'est une espèce de forme de parjure là, quand on n'y croit pas du tout. Mais tu sais, tout ça pour dire que dans le fond, c'est une grande victoire aussi pour le Parti québécois. Parce que plusieurs ont dit au cours des dernières semaines qu'Ampois Saint-Pierre Plamondon allait de l'avant avec ça. Plusieurs disaient ben c'est impossible, c'est ridicule, c'est bien de l'énergie dépassée pour rien. Ils ont juste à prêter serment puis à entrer au Salon Bleu, puis à dans le fond, après ça, à faire une motion ou un projet de loi. Mais c'est une grande victoire pour le Parti québécois puis pour Paul Saint-Pierre Plamondon.
Bien, particulièrement pour quand je parlais de gestes historiques. Paul Saint-Pierre Plamondon va être le premier député à siéger sans avoir jamais prêté serment à la monarchie. Parce que tous les autres, même les deux députés péquistes, n'ont pas pu assister, ont déjà prêté serment hein, dans lors d'élections précédentes.
Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, selon vous, c'est ça, il passe à l'histoire en faisant ça?
Lui, il va passer à l'histoire. Quand il va rentrer au Salon Bleu, là, 31 janvier prochain, je crois, l'ouverture de la prochaine session, ça va être le premier député à ne pas avoir jamais prêté serment à la couronne britannique. Donc, puis évidemment, ça va de soi parce que c'est lui qui a porté le flambeau, comme vous le dites. Et il faut voir aussi que si le Parti québécois n'avait pas résisté à la tentation de prêter serment derrière les portes closes pour pouvoir siéger dans les deux dernières semaines, mais il n'est pas dit que le gouvernement n'aurait pas retardé encore une fois l'adoption d'un projet de loi, parce qu'il y avait déjà eu, comme vous le savez, un projet de loi piloté par Québec solidaire lors de la dernière session, et ça n'avait pas été adopté, ça n'avait pas été mis à l'ordre du jour. Donc, à partir de ce moment-là, on a gagné, on a crevé l'abcès, si on veut, du retard continuel de l'adoption de ce projet-là, de loi-là, grâce au Parti québécois et à Paul Saint-Pierre Plamondon.
Puis, M. Jean-Baillargeon, vous qui êtes un expert, justement, en communication stratégique, qu'est-ce que ça amène à Paul Saint-Pierre Plamondon d'avoir fait cette lutte-là pour le Québec, de devenir effectivement le premier député de l'histoire du Québec qui va siéger sans prêter serment? Qu'est-ce que ça lui amène comme crédibilité, comme nouveau chef du Parti québécois?
Ben, écoutez, moi personnellement, là, je trouve qu'il ramène l'idéalisme politique à l'ordre du jour. Vous allez rire de moi un peu parce que c'est pas tellement bien
non,
vu.
Non, pas du tout. Je pense que ce que vous dites, c'est de croire en ses convictions, d'être...
Exactement. Exactement. Donc, il y a des gens qui vont en politique pour le pouvoir, pour la notoriété ou peu importe, là, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnel, là, toutes les raisons sont bonnes. Mais il y a des gens qui vont en politique par idéalisme. Et ça existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui y vont parce qu'ils ont des convictions, ils ont des valeurs. Et évidemment, le Parti québécois s'est jamais caché, et Paul Saint-Pierre Plamondon, de vouloir l'indépendance du Québec ou l'indépendance de la nation québécoise, créer un pays. Donc, fondamentalement, ça a toujours été un parti idéaliste, là, les valeurs de base du Parti québécois. Qu'on soit pour ou contre, ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut avoir des résultats par idéalisme? Et moi, je le vois, ce résultat-là. Et ça, je crois que cette authenticité-là en politique va lui apporter beaucoup d'admiration.
Est-ce que ça va ramener justement des militants qui avaient peut-être qui avaient quitté le bercail au cours des dernières années? Est-ce que ça va raviver une flamme?
Les gens qui croyaient au Parti québécois par idéalisme, là, évidemment, peut-être qu'ils vont dire, ça vaut peut-être la peine. Je donne un exemple. Si, par exemple, toujours dans la même ligne identitaire, mais c'est sûr que le Parti québécois peut faire d'autres enjeux sur le plan économique et social, mais au niveau identitaire, pensez-y. Est-ce que, par exemple, il ne pourrait pas amener l'idée d'une hymne nationale au Québec? Hein, vous le savez, on n'a pas d'hymne nationale.
On a genre du pays, mais il n'est pas ben officiel.
Non, mais moi, j'ai une suggestion à faire. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté le refrain de l'Ordre national du Québec. Ok. Je trouve que c'est comme trame de fond, c'est très bien. Ok. Tout ce qui manque, c'est des paroles. Je dis ça comme ça, c'est une suggestion, bien sûr. Mais vous savez, on avait ceux qui n'étaient pas, durant les fameux débats dans référendaire, ceux qui n'étaient pas d'accord à l'époque, quand ils assistaient à des parties de hockey, ils devaient rester assis lors de l'hymne nationale du Canada. C'était un peu gênant, OK? Donc, à partir de ce moment-là, si on a un hymne national du Québec, je trouve que c'est une belle cause. L'autre cause, évidemment, tout ça, là, toute cette approche-là, le serment, l'hymne national, peu importe les lois 96 ou 21 là, qui sont à l'ordre du jour, vous savez, sur la laïcité ou sur la langue française, tout ça devrait faire partie d'une constitution québécoise.
Bon, mais ça va être...
Il n'y en a pas actuellement. Il y en a une, vous savez que c'est possible. En Colombie-Britannique, il y a déjà une constitution provinciale.
Absolument. Okay. Ça va être à suivre. Fort intéressant. Exactement. Merci beaucoup, M. Jean-Baillargeon, expert conseil en communication stratégique. Merci d'être nous parler.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Là-haut sur la colline.
Ce que les ministres n'ont pas voulu dire,
Marie Montpetit va vous le dire.
Avec la pénurie de main-d'œuvre, on compte de plus en plus sur les travailleurs étrangers temporaires pour travailler dans nos fermes et dans nos champs. Pour plusieurs agriculteurs, c'est des travailleurs essentiels, mais certains de ces travailleurs étrangers disparaissent dans la brume au bout de quelques jours pour aller travailler ailleurs. On ne sait pas où. En 2022, on a recensé jusqu'à maintenant plus de 450 travailleurs étrangers qui ont abandonné leur travail dans les fermes du jour au lendemain. Puis c'est un phénomène qui prend de l'ampleur avec tous les problèmes que ça peut amener aux producteurs agricoles. Pour en parler avec nous, Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles. Bonjour, M. Caron.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous.
Bien, ça fait plaisir.
Alors, M. Caron, je vous donne deux exemples concrets là, pour qu'on se place un peu sur le sujet. Là, cet été, il y a eu un producteur laitier de Saint-Isidore, M. Yvan Bastien, qui lui a eu la très mauvaise surprise un matin de constater que son seul employé temporaire s'était enfui aux États-Unis, ce qui l'a amené à prendre la décision dès le lendemain, dans le fond, de vendre son troupeau parce qu'il était incapable de faire le travail seul. Là, donc, ça a des grosses conséquences. Un autre cas à Saint-Eustache, cette fois, Louis Bellil, producteur maraîcher, qui lui a commencé une journée de récolte avec aussi une très mauvaise surprise qu'un de ses employés temporaires avait plié bagage vers les États-Unis. Puis lui, ça lui a pris 8 mois pour remplacer ce travailleur-là qui s'était enfui, avec toutes les conséquences effectivement, que ça peut avoir. Mais comment ça se fait, M. Caron, que c'est aussi long de remplacer un travailleur autonome?
Bon. Et d'ailleurs, bien, merci d'avoir souligné ces cas-là. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'appels par rapport à ça. Il faut peut-être expliquer, mettre en perspective d'entrée de jeu, qu'il y a deux programmes ici au Québec. Il y a un programme de travailleurs agricoles saisonniers qui est une entente avec le Québec et le Mexique, entre autres. Et cette entente-là, naturellement, c'est des ententes de 8 mois. Les producteurs payent les loyers de ces travailleurs-là. Et ça, on n'a pas de problème avec ce programme-là. L'autre programme qui est plus problématique, dont vous avez amené deux cas précis, c'est des travailleurs étrangers temporaires, ou est-ce que c'est des contrats qui peuvent être pris sur 2 ans, entre autres. Encore là, il y a les frais au niveau des transports, c'est-à-dire le billet d'avion, c'est-à-dire que c'est les producteurs ou les employeurs qui payent le billet d'avion. Et il y a aussi à la charge au niveau du logement ou de l'hébergement. Il y a peut-être quelques frais que des gens peuvent chercher. Et là, la problématique qu'on vit dans ce deuxième programme-là, c'est que les gens, et d'ailleurs dans ce programme-là, c'est les autres pays, dont le Guatemala, Honduras, qui est là, le Salvador, et ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est qu'il y a déjà des réseaux qui sont installés ici au Québec, là. Et vous comprenez, le producteur, en plus de ça, c'est pas juste d'un délai de 8 mois, là. C'est d'avoir payé des billets d'avion, d'avoir préparé tout l'hébergement, tout ça. Et la personne arrive, reste quelques semaines et décide de quitter. Donc, ça met à risque nos entreprises agricoles. Et c'est pour ça qu'on a interpellé, entre autres, le gouvernement fédéral et provincial là-dessus, pour être capable d'avoir un suivi, là, parce que c'est un non-sens. On parle de plus de 500 travailleurs là, qui ont quitté les entreprises. Là. Et donc, on ne sait même pas où ils sont rendus. Là,
mais c'est ça, M. Caron. Pour 500, c'est énorme. Pour qu'il y en ait autant, qu'ils désertent, qu'ils disparaissent dans la brume, est-ce qu'on peut penser qu'il y a un marché, qu'il y a une business qui est mis en place? Est-ce qu'il y a un phénomène de passeurs un peu comme à la frontière sud des États-Unis, mais là, ils passeraient par le nord des États-Unis? Est-ce que c'est organisé? Parce que c'est beaucoup, le 500.
Nous, c'est un élément qu'on pense, oui, qu'il y a déjà des réseaux qui sont installés. Et c'est pas pour rien, entre autres, qu'on va avoir une rencontre la semaine prochaine et qu'on va interpeller l'Agence des services frontaliers du Canada, parce que on sent que nous, on amène ces faits-là, mais il n'y a pas personne qui prend la balle au bon pour faire des suivis, faire des enquêtes, là. Et nous, c'est vraiment pas acceptable de ce côté-là. Il faut vraiment qu'il y ait des enquêtes. Et d'autant plus d'amener les programmes aussi à être beaucoup plus adapté à la réalité. On parle beaucoup en agriculture de productivité, d'efficacité, entre autres. Bien là, on demande la même chose à nos gouvernements dans ce cas-là, là, parce que c'est inacceptable non plus qu'il y ait des délais de 8 mois, sachant que les gens ont déjà rempli leurs études d'impact au niveau des marchés du travail, le EIMT dans notre jargon. Les gens ont déjà répondu, il faut qu'ils recommencent à la base, là.
Est-ce que
quelque chose d'intéressant, par contre, je sais qu'au niveau du fédéral, on nous parle d'un programme d'employeur de confiance, là, puis qui pourrait amener ce travail-là peut-être plus fait une fois aux 3 ans ou aux 5 ans. Ça serait vraiment facilitant, mais il faut qu'il y ait de la recherche par rapport à les gens qui fument.
Et est-ce que le gouvernement, là, vous me parlez du gouvernement fédéral, mais est-ce qu'au niveau de Québec, par exemple, au niveau du ministre de l'Emploi ou au ministre de l'Agriculture, M. Lamontagne, est-ce que le gouvernement du Québec a un rôle à jouer aussi qui pourrait pourrait aider à endiguer, dans le fond, ce problème-là?
Bien, moi, je pense que ça part au niveau du fédéral important, mais c'est sûr qu'on peut être soutenu au niveau provincial là-dedans là, pour le suivi. D'ailleurs, vous êtes sûrement au courant, tout l'aspect des logements, il y a toutes des modifications. Et nous, on veut juste s'assurer qu'il y ait que ça soit cohérent par rapport à des demandes qu'on peut voir au niveau du Québec face côté fédéral, parce que les producteurs, ben, on est en train de faire des investissements sur les logements, mais on veut savoir qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on peut être cohérent dans les demandes, entre autres, fédérales, provinciales, par rapport à l'hébergement, là? Et ça, je vous dirais qu'on a des rencontres, et on interpelle le provincial là-dessus, là, pour être sûr que ce soit au niveau de la santé, sécurité, que ce soit au niveau de la protection de nos travailleurs. Ben, pour nous, c'est super important, ces travailleurs-là. D'ailleurs, je sais pas si les gens le savent, mais on a 60 000 travailleurs agricoles au Québec. De les 60 000, mais il y en a 20 000 que c'est des travailleurs temporaires étrangers, là.
Non, c'est essentiel. Là. Puis qu'est-ce qui explique, M. Caron, qu'est-ce qui explique que les travailleurs étrangers vont faire le choix justement d'abandonner un permis de travail ici pour aller vivre, on comprend, soit sans permis, sans statut? Est-ce que c'est des raisons financières? Est-ce que c'est des raisons de conditions de travail dans les firmes où ils travaillent? Comment vous expliquez ça?
Non, c'est plus qu'on le fait miroiter une certaine liberté d'aller à l'extérieur. Puis c'est pour ça qu'on se dit qu'il y a sûrement des réseaux déjà inclus là-dessus. Parce que c'est pour ça que je parlais de l'autre programme qui est là, puis de l'entente qu'on a avec le Mexique. Les gens reviennent année après année, puis sont bien contents de revenir ici. Puis les conditions sont là, puis sont super bien adaptées, là. Mais les gens rêvent d'aller dans un autre pays, que ce soit aux côtés États-Unis, tout ça. Et puis là, faut le dire, les gens, des fois, ils se font prendre là-dedans, là. Parce qu'ils sont au travail par rapport à des agences clandestines qui sont là. Et c'est ça qu'on entend parler un peu, là. Mais tant aussi longtemps qu'au niveau du ministère de l'Immigration fédérale, tu sais, qu'il n'y aura pas des suivis, des enquêtes pour approfondir ça. Et d'autant plus important aussi parce que les producteurs et productrices investissent de l'argent pour ces travailleurs-là. C'est que faut avoir quelque chose de vraiment de principe et de reconnaissance, là.
Bon, ben souhaitons que le gouvernement du Canada, le ministre de l'Agriculture fédérale et les ministres de l'Emploi et de l'Agriculture au Québec vous entendent parce que effectivement, comme vous le dites, ce sont des travailleurs, moi j'étais à même de le constater, là, vous vous rappelez, j'ai eu le bonheur d'être porte-parole en agriculture à une certaine époque, puis on voyait dans les différents champs du Québec à quel point c'est une main-d'œuvre qui est essentielle et nécessaire pour nos producteurs agricoles. Martin Caron, président général de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, je vous remercie d'être venu nous parler de cet enjeu, de ce phénomène qui prend l'ampleur.
Merci. Ouais. Merci à vous, puis je pense qu'on peut conjointement inviter les jeunes de la population dans le temps des fêtes d'apprécier les saveurs des producteurs, tous les produits qu'on fait, puis de la connaissance et du savoir-faire de nos producteurs, là.
Vraiment, excellente proposition. Mangeons local et encourageons nos agriculteurs et nos producteurs agricoles.
Absolument.
Merci beaucoup, M. Caron. Au revoir. Et c'est ce qui complète cette édition de Là-haut sur la colline. Merci d'avoir choisi Cube Radio.
Cube Radio.